Ruquier.
Le grand oral des grandes gueules.
L'éditorialiste politique Christophe Barbier est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous.
On n'était pas tous d'accord tout à l'heure sur les leçons à tirer de ce qui s'est passé dimanche, cette abstention record, de mauvais résultats pour Marine Le Pen, pour les listes Macron. Certains estimaient que ça remettait en cause le duel Macron-Le Pen, duel annoncé, prévu, programmé quasiment. D'autres disons ça change rien. Quel est votre point de vue Christophe ?
On peut se dire que ça ne change rien si on considère que ceux qui se sont abstenus dimanche, ce sont les Français pour lesquels le choix du candidat s'est déjà fait. Mélenchon, il sera candidat. Marine Le Pen, elle sera candidate. Macron, il sera candidat. Donc leurs électeurs n'ont pas voulu participer à ce scrutin de présélection des présidentiables. En revanche, pour la droite des Républicains, ou pour la gauche des écolos et des socialistes, le choix du présidentiable, il n'est pas fait. Donc on s'est mobilisé. Les Républicains, ils sont venus pour dire « Moi, je veux Pécresse, je veux Xavier Bertrand, je veux Wauquiez. » La gauche, ils se sont mobilisés. Les écologistes se sont dit « Faut qu'on soit devant les socialistes pour que le candidat de la gauche républicaine, ça soit un vert. » Les socialistes se sont dit « On n'est pas mort, faut qu'on aille voter pour que nos sortants dans les régions soient reconduits, mais aussi pour que le PS ait le leadership sur la gauche. » Si on le lit comme ça, ça veut dire que les électeurs qui sont restés chez eux dimanche, ils viendront quand même à la présidentielle défendre Mélenchon, Le Pen, Macron. Et que donc le duel Le Pen-Macron pourrait être reconduit sans grande surprise. Néanmoins, les sondages avant les régionales montraient que les Français ne souhaitent pas la réédition du duel de 2017.
Majoritairement.
Or, le passé nous apprend que quand les Français ne souhaitent pas, ils ne font pas. En 1993, quand on disait aux Français « Bon, qui va être élu dans deux ans président de la République ?» Ils répondaient « Oh, évidemment, c'est Balladur !» Quand on leur demandait, est-ce que vous souhaitez que ce soit Balladur ? Ah ben non, hein. Il n'est pas sympa, c'est Louis XVI, on l'aime pas, il est froid, c'est un techno. Eh ben ils ont fini par mettre leur souhait en correspondance avec leur vote. Et à ce moment-là, on a vu revenir du diable Vauvert Jacques Chirac. De la même manière, en 2002, on leur disait, alors Chirac, Jospin, ça vous passionne ? Oh non, on s'ennuie, ça fait 5 ans qu'on les a à la tête de l'État, l'un président, l'autre Premier ministre, on s'ennuie, vraiment, franchement, il ne se passe rien. Ben les Français ont décidé qu'il allait se passer quelque chose et ça a donné le 21 avril 2002. Donc là, quand les Français disent...
Il y a des contre-exemples.
On n'a pas envie...
Il y a des contre-exemples.
Pas tant que ça.
88, Mitterrand, Chirac...
Mais en 86, deux ans avant, Mitterrand était au fond du trou. La droite avait tout raflé. Forcément, la parenthèse socialiste allait se refermer. Et Mitterrand a redressé la situation très très vite. Chirac l'y a beaucoup aidé avec les erreurs de 86. 1980, Giscard, largement en tête dans les sondages. Fin 80, Giscard largement en tête dans les sondages. Début 81, toujours en tête. Et puis, il se passe quelque chose et on renverse la table. Donc, soyons très prudents. Les Français n'ont pas envie de ce duel Le Pen-Macron. Ils ne s'y résigneront que si dans les autres camps, la gauche modérée et la droite raisonnable, personne ne s'impose et que l'offre est trop décevante. Or, nous avons depuis dimanche des gens qui ont marqué des points et d'autres qui en ont perdu.
Qui a marqué des points ?
Hidalgo a perdu des points parce qu'Audrey Pulvar a échoué en Ile-de-France. Xavier Bertrand a incomparablement pris de l'avance sur ses rivaux à droite parce que ce qu'il a réussi dans les Hauts-de-France, c'est un renversement de l'ordre des choses par rapport à 2015 qui est signifiant. Wauquiez fait un bon score, mais finalement, qui est dans la logique de 2015. C'est comme 2015 en mieux pour Wauquiez. Xavier Bertrand, c'est 2015 à l'envers, et ça, ça lui donne un avantage symbolique. J'ajoute que Xavier Bertrand est déjà officiellement candidat. Donc il peut dire aux Républicains, je ne suis plus membre de votre parti, moi je serai candidat jusqu'au bout, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez me soutenir, je suis disponible. Si vous voulez pas me soutenir, je continuerai. Il a donc, psychologiquement, symboliquement et arithmétiquement, pris une longueur d'avance.
Jérôme Marty.
Et on a quand même vécu une élection qui est une élection de la reconnaissance de l'implantation. Parce que ça n'a pas voté trop ni à droite ni à gauche, bien en sûr. Fait. On a voté pour des hommes et tout des femmes implantés, qui se sont bien comportés pendant la crise Covid, et il y a eu un renvoi d'ascenseur de la part de la population. Et puis face à ça, on a deux partis politiques, un sacré point commun, c'est le fait que justement ils n'ont aucune implantation. Le RN comme la République En Marche. Et la problématique c'est que, est-ce que ces partis existent vraiment ? Dans les bureaux, les assesseurs n'étaient pas ni de la REM, ni de République En Marche, qui sont incapables, ni de la REM, ni du
RN,
qui sont incapables de fournir des assesseurs. Donc ça va jusque-là. Donc la problématique, c'est est-ce qu'ils existent vraiment ?
Oui, mais une élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique. Il concourt à l'expression du suffrage, comme dit la Constitution. Mais la présidentielle, ça peut être l'aventure personnelle d'un homme ou d'une femme avec le peuple par-dessus les partis. Quelques exemples. Macron, bien entendu. Mais Ségolène Royal. Ouais. Ségolène Royal n'avait pas de majorité au PS, elle n'avait pas de courant, elle a dans la primaire, forcer le vote des militants PS qui ont vu les sondages et qui se sont dit « Mais si on choisit pas Ségolène Royal, on n'est même pas au second tour ». Ils ont donc été contraints du côté du parti à choisir Ségolène Royal en 2007. Donc c'est pas parce que RN et LREM n'ont pas d'implantation qu'ils sont disqualifiés pour la présidentielle. Mmh. Mais c'est vrai qu'au municipal et au régional, ça leur a coûté très cher. Alors c'est vrai qu'il y a l'implantation qui a joué. Les sortants ont été reconduits. Dimanche, on aura peut-être 13 sortants sur 13 reconduits. C'est quand même unique. Parce qu'ils étaient sortants. Dans la région sud-ouest, Carole Delga, c'est pas parce qu'elle est socialiste qu'elle fait un bon score, c'est parce qu'elle est sortante. Peut-être que les électeurs, au municipal et surtout cette fois-ci, ont dit écoutez, avec ce qu'on traverse, la Covid, la reconstruction, voter, c'est pas le moment. Donc, on annule l'élection. Donc, on reconduit les sortants comme si on avait décidé de dire aux organisateurs de l'élection, c'est pas le moment de nous faire voter. C'est sans doute une erreur, c'est toujours le moment de voter, il faut pas repousser les échéances. Mais on a l'impression que les électeurs ont annulé l'élection, plus qu'ils ne se sont emparés de l'élection pour en sanctionner tel ou tel.
Gilles-William Goldnadel.
Non, je n'invalide pas du tout l'analyse de Christophe. Simplement, c'est que je doute beaucoup des conséquences de ce vote ou de ce non-vote pour l'avenir. Je pense que dans 15 jours, on aurait oublié tout ça et qu'il est très difficile de sonder les urnes. Il est encore plus difficile de sonder les non-électeurs, exactement, les non-électeurs.
Il n'y a pas de mare de café, voilà, au fond des urnes.
Voilà.
Remontons un peu le temps. 1999, les européennes. Jean-Marie Le Pen boit la tasse. Je prends cette expression parce que le Nouvel Obs l'avait représenté à la une en train de se noyer dans un océan. Et l'Obs avait titré « Le Pen, c'est fini ». Il était en dessous de 10, il y a eu la sécession Maigret, juin 99. Voilà. Moins de 3 ans après, il était au second tour de la présidentielle et il inscrivait son mouvement dans une durée dont profite encore aujourd'hui sa fille. Et donc, oui, en effet, oui, l'avenir n'est jamais inscrit dans des élections.
Isabelle ?
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Christophe Barbier, c'est que là, en fait, finalement, les Français ne se sont pas du tout intéressés à ce pourquoi ils allaient voter, en fait. C'est-à-dire, vous nous dites, quand il y a quelque chose qui peut ressembler à un enjeu national, ils y vont, ils s'y intéressent. La preuve, Xavier Bertrand, bien qu'il y ait quand même beaucoup d'abstention aussi dans les Hauts-de-France. Mais sinon, non. Et alors là, moi, la question que je me pose, c'est quand même qu'on a fait, enfin, François Hollande a fait avec la loi NOTRe ces régions énormes, qui ont quand même énormément de pouvoir, notamment sur les transports, et que ça n'intéresse à ce point pas les Français, c'est quand même assez désespérant, assez, non ?
C'est désespérant. Alors, les petites régions avaient l'avantage de l'identité, de l'enracinement, c'est sûr, je suis du Poitou, je suis du Sud-Ouest, ça avait un sens. Bon, ou l'Alsace. Et en grandissant, on leur a donné de la puissance, mais on leur a enlevé des racines.
C'est vrai.
Donc on a fait de ces régions des espèces d'immenses nénuphars qui s'étalent sur les temps, mais qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de racines.
Et dont les Français ne veulent pas.
Est-ce qu'il faut revenir en arrière ? Je ne pense pas que les Français n'en veulent pas, ils ne comprennent pas.
C'est vrai.
Où est l'avantage ? Alors on leur dit, mais si, l'avantage, vous allez voir, c'est qu'il y aura une économie d'échelle. Moins de fonctionnaires, moins de... rien du tout.
C'est faux.
Rien du tout. On a additionné. Voilà, c'est faux.
On a additionné les strates comme
ça. Et la Cour des comptes l'a bien dénoncé. Premier échec.
Bien sûr.
Ensuite, on a dit que ça va donner une puissance économique. C'est comme les Länder allemands. Est-ce qu'on l'a vu ? Non.
Parce
que l'État n'a pas donné les pouvoirs. Si l'État a donné la stratégie économique, mais la puissance économique, non. Donc plutôt que de revenir en arrière, en recréant le Berry ou l'Alsace ou la petite Normandie.
Donnons-leur les moyens comme les Länder.
Donnons-leur les moyens. On ne va pas refaire une basse et une haute Normandie. C'était ridicule. Donnons-leur les moyens. En Allemagne, le ministre de l'Éducation qui compte, c'est le ministre du Land.
Bien sûr.
C'est lui qui décide.
Pareil pour la santé.
Pareil pour la santé.
Mais Christophe, on a vu pendant 14 mois qu'Emmanuel Macron ne voulait pas du tout donner du pouvoir aux régions.
Exactement. Donc,
souvenons-nous, quand une région osait acheter quelques masques, immédiatement, on lui en voulait. D'ailleurs, on raflait les masques sur le tarmac de l'aéroport.
Et c'est parce que ce sont ses opposants qui tiennent, ses futurs compétiteurs qui tiennent les régions.
Macron est un centralisateur.
Eh oui.
Marine Le Pen aussi.
Bien sûr. D'ailleurs.
Est-ce qu'il y a une place pour un homme ou une femme de droite ou de gauche modérée qui serait vraiment décentralisateur ? Quand Xavier Bertrand essaye de faire prospérer l'idée des territoires, de la France des territoires, il prend ce créneau-là. Encore faudra-t-il lui donner du concret, parce que pour l'instant, ça ne reste qu'un mot.
Question sur Marine Le Pen. Est-ce que sa stratégie est remise en cause ? Parce que j'ai regardé, mais le Rassemblement National baisse depuis 3 élections.
Tout à fait.
Aux législatives, aux européennes, alors beaucoup moins, et aux régionales. Donc ça commence à
devenir... aux municipales, où le RN a perdu la moitié de ses conseillers municipaux.
Ça commence à devenir quand même un phénomène, et pas seulement... Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la stratégie Le Pen ?
Oui. Il y a un triple problème. D'abord, elle est dans une stratégie uniquement de présidentielle et même de second tour de la présidentielle. Elle veut tellement effacer ce débat télévisé catastrophique que chaque fois qu'elle prend la parole, elle s'imagine entre les deux tours de la présidentielle. Donc elle est rassurante, elle est inoffensive, elle est mesurée, elle est sage. Voyez, dit-elle aux Français, comme j'ai progressé depuis ce débat catastrophique. Mmh. Oui, mais on n'est pas au deuxième tour.
On est
avant le premier. Il faut rassembler son camp, il faut être pugnace, il faut être agressif.
Ouais.
L'épisode de la gifle était intéressant. La Marine Le Pen d'avant serait venue dire, bon, c'est pas bien de gifler le président de la République, mais enfin, il l'a quand même bien cherché. Ouais. Voilà ce qui se passe quand on insulte les Français. Là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Je défends Emmanuel Macron, c'est une honte.
Les premières à réagir.
Donc, elle a gagné, évidemment, en sagesse, mais les Français qui veulent mordre par leur vote, qui veulent exprimer leur colère, voire parfois leur rage, ben, s'ils ont quelqu'un de trop rond, trop doux, ils s'en détournent.
Est-ce que ça n'est pas une alternative diabolique?
Certes, mais oui, elle a pas tellement le choix. Il y a du bon, il y a à gagner à perdre dans les deux camps.
Le premier tour, elle sera jamais au deuxième tour.
C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la leçon des grands anciens.
C'est ça.
François Mitterrand disait toujours, au premier tour, on rassemble son camp, au deuxième, on élargit.
Oui.
Mitterrand, 88, c'était tonton, il était président sortant, c'était un grand-père pour tout le monde. Sa déclaration de candidature, après son petit « oui » à la télévision, c'est de dénoncer le clan des factieux, cette droite abominable.
Oui.
Il rassemble son camp. François Hollande, président normal, bonhomme, pépère, dira Le Point. Il commence en disant « Je n'aime pas les riches, mon ennemi c'est la finance ». Rassembler son camp en cognant l'autre. Marine Le Pen ne cogne plus, elle s'affaiblit pour un premier tour. Deuxième erreur de Marine Le Pen, les compétences. Depuis 5 ans, elle n'a pas été ralliée par des gens compétents. À part Mariani qui a tenu à peu près la route. Où sont les gens dont on se dit « Ah, ça ferait un ministre de ceci, un ministre de cela ». Elle a un gouvernement, elle a une équipe.
Le ministre de la justice.
On s'y met à tous, on est incapable de faire un gouvernement RN. On n'a pas les noms. On n'a pas les noms. Par ailleurs, elle nous dit, j'ai des hauts fonctionnaires qui travaillent pour moi, fameux Horace, on les voit jamais. Elle n'est pas bonne comme directrice des ressources humaines. Et donc, elle n'a pas monté sur ses compétences. Donc, ce sont deux carences qui, à mon avis, commencent à lui poser un sérieux problème. Néanmoins, dans une logique de présidentielle, elle a été candidate 2 fois, elle est inscrite dans le paysage, il y a un club de ceux qui l'ont été, qui ont montré qu'ils pouvaient l'être. Même quelqu'un comme Dupont-Aignan, qui a réussi à être candidat, ça lui donne un bonus malgré toutes ses erreurs et malgré tous ses échecs.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Christophe Barbier, parce qu'on voit bien que effectivement, elle aurait gagné des régions, et là, enfin, on peine à croire qu'elle va en gagner. Elle aurait pu effectivement casser la droite, c'est-à-dire faire venir à elle des talents de droite disant, voilà, par les régionales, venez à moi.
Qui va y aller là?
Et là,
personne,
qui va y aller? Personne.
Personne.
On ne rejoint pas une écurie qui perd.
Semble réveillée.
La droite se dit, si on trouve un candidat, on peut y arriver nous-mêmes. Encore faut-il trouver un candidat et décourager les autres. Pour ça, il faut une autorité. Elle n'existe plus à droite. C'est pas Christian Jacob, c'est plus Sarkozy et ce n'est plus Jacques Chirac. Ouais. Donc comment la droite va expliquer à Laurent Wauquiez de se retirer parce qu'il est bas dans les sondages, à Valérie Pécresse de se rallier à Bertrand ou l'inverse? Il n'y a plus d'autorité à droite, le problème va être compliqué pour la droite. Donc il faut qu'elle trouve un champion, mais si ce champion s'impose, la droite peut gagner par elle-même. Donc, aller au RN, un peu gêné, mais pour être dans le bateau vainqueur, ça n'est plus d'actualité.
Et Macron, il a eu raison, pour l'instant, d'ignorer totalement ce qui s'est passé dimanche. Hier, c'était une journée samaritaine, Justin Bieber et Jean-Michel Jarre.
Et même dimanche, pendant notre soirée électorale, on avait des mails du service de presse de l'Élysée. Alors, on les regardait, ça y est, qu'est-ce qu'il dit de l'abstention, Le premier mail, c'était Jean-Michel Jarre, le deuxième mail, c'était la rencontre avec le responsable de la principauté d'Andorre. Donc on a l'impression qu'à l'Élysée, les régionales n'existaient pas.
Oui, mais c'est trop facile. Il ne peut pas avoir envoyé 5 ministres se faire prendre une raclée dans le Nord. Et
y avoir
comme
été lui-même.
Et organiser le ralliement d'En Marche avec Muselier au premier tour et faire comme si ça ne l'intéressait pas et qu'il était au-dessus de ça.
S'il en tire les conclusions, c'est-à-dire il vire une partie de ses ministres battus, voire il change de premier ministre. Ça veut donc dire qu'il prend cette défaite pour la sienne. Donc il nationalise les régionales. À ignorer à ce point-là les régionales, comme si c'était des élections de chambre de commerce, il dit aux Français, attendez, moi je veux réformer le pays, je vais présider l'Europe au début 2022, je suis en train de réfléchir à la France de 2050, je vais vous proposer un nouveau contrat, les lycées, les transports, c'est pas notre problème.
Pas mépriser,
ni à vous, vous n'avez pas voté, ni à moi.
Le processus démocratique.
Non,
quand même.
Je pense que c'est mépriser la décentralisation, c'est mépriser les corps intermédiaires, et de ce côté-là, il fait une faute, parce qu'il ne réformera pas le pays sans s'occuper de ces gens-là. Mais électoralement, tactiquement, c'est se tenir à l'abri des éclaboussures de ce scrutin calamiteux pour la République
en marche. C'est quand même un peu mépriser l'intelligence des gens et des observateurs.
Il a une solution pour se racheter. C'est d'attendre le vendredi 2 juillet, c'est-à-dire le jour où on va normalement élire les exécutifs, les présidents de région, et les inviter tous. Leur dire, écoutez, le 14 juillet, autour de moi à la tribune du 14 juillet, je veux les 13 présidents de région, oui, plus ceux d'outre-mer. Et je vais montrer que la France, bien c'est sûr, le chef de l'État, mais c'est aussi les présidents des exécutifs régionaux.
Est-ce que
on l'a vu dans la lutte contre
Macron n'est pas
responsable. S'il fait ça, oui, il fait un joli coup parce qu'ils vont tous venir.
Mais est-ce que Emmanuel Macron n'est pas responsable aussi en grande partie de cette abstention? Quand pendant 14 mois, on dit aux Français tout est géré au Conseil de défense un mercredi avec 6-7 personnes, l'Assemblée, on s'en fout, le Sénat, on s'en fout, les gens, ce qu'ils disent, on s'en fiche, mais c'est moi qui dis à quel moment on est déconfiné, reconfiné, le protocole sanitaire. Ça fait 14 mois que ça dure.
Exactement.
Alors les Français se disent, bah oui, effectivement, ça sert à rien d'aller se déplacer pour voter puisque de toute manière, c'est pas là que ça se passe.
Il est doublement fautif parce que non seulement il leur a dit il n'y a que le sommet de l'État qui décide de tout, mais en même temps, il leur a dit le vote électronique, non. Le vote par correspondance, non. La procuration, c'est comme d'habitude, c'est un gymkhana. La convention citoyenne, je l'ai faite, je l'avais promis, mais vous voyez, bof, personne n'est vraiment convaincu. C'est-à-dire qu'il a fermé la porte à toutes les oxygénisations possibles du processus démocratique. Et là aussi, pour un président jeune qui avait titré son livre Révolution, c'est terriblement conservateur et archaïque. S'il continue à mettre le couvert comme ça sur la cocotte minute, ça lui sautera à la figure. À lui de trouver dans les mois qui viennent le moyen de faire respirer ça. Le vote à 16 ans, c'est pas trop tard. Il y a un problème avec la jeunesse. Cette jeunesse est victime de l'épidémie. Études gâchées, vie affective compliquée, entrée dans la vie active brisée, dette à payer pendant des années. À ces jeunes-là, il faut dire... Vous aurez votre mot à dire l'année prochaine. Vous n'avez que 16 ans, vous aurez votre mot à dire. Il peut le faire. La deuxième chose qu'il peut faire aussi, c'est un référendum. Un référendum sur la Constitution pour mettre le climat, la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Il a encore le temps de le faire.
Oui, mais Christophe Barbier, c'est l'arme à double tranchant.
Ça se rappelle, Christophe Barbier, il peut le perdre.
Oui, tu peux pas le référendum, c'est dangereux.
Ça va être compliqué pour les écologistes de faire voter non. Ça va être compliqué pour la droite de faire voter non.
C'est l'arme à double. L'imagination des politiciens est sans limite.
C'est l'arme à double tranchant parfaite parce que Giscard a donné le vote à 18 ans et c'est la jeunesse qui l'a fait battre aussi. Or, mettant Chirac de côté face à Mitterrand.
Bien sûr, mais il faut savoir si on est un homme d'État ou un politicien. Si Emmanuel Macron est un politicien, il continue à faire une politique pour les vieux et par les vieux. Ouais. Si il veut être un homme d'État, il pense à la France de 2050 et il donne la priorité à la jeunesse.
Oui, mais Christophe Barbier, la France des jeunes, elle a pas été votée à plus de 85% là. Donc qu'est-ce que vous voulez donner à plus jeunes alors que déjà les 18-25 n'y vont pas? Moi, je suis pas certaine que ça résoudra le problème de l'abstention.
Peut-être souvent Rassemblement National. Non.
Ça, c'est vrai.
Peut-être. Oui, mais si on considère que, en les interdisant de participer au jeu, on va les intéresser au jeu, à 16 ans, la République vous lâche la main, l'école n'est plus obligatoire. Débrouille-toi. Mais tu n'as pas le droit de donner ton avis? C'est pas normal.
Merci Christophe Barbier. On se retrouve.
Il est en pleine forme.
Parce que les théâtres ont rouvert.
Ah oui, c'est ça.
Ça aide aussi beaucoup.
Incroyable.
Et le foot est revenu aussi. Mesdames et messieurs, on se retrouve. Bah oui, mais parce qu'il aime le foot.
Mais aussi, bien sûr.
Ah, je savais pas.
Mais oui, c'est
la France est en 8e de finale.
Oui, sans jouer.
Sans jouer. C'est ça le
personne n'est parfait.
Marche aussi.